C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Radio Foot est de retour en direct, rien que pour vous, chers auditeurs, avec à la une, bien sûr, la Ligue des Champions, les demi-finales. Allez, se sont achevés ce soir et a priori, le Barça n'avait pas vraiment envie d'attendre les matchs retour pour prendre une sérieuse option sur la finale. Alors certes, on a connu le club catalan un peu plus flamboyant, mais peu importe. Succès 3-0 devant Liverpool au Camp Nou ce mercredi. Et bien sûr, Lionel Messi y est pour beaucoup. Pour revenir sur la performance, voire le récital de la star argentine et la performance globale de son équipe, deux chroniqueurs sont à mes côtés, nos deux visiteurs du soir, Marc Libra, l'ex-Messi de l'Olympique de Marseille, bonsoir Marc.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous, exactement.
Et Naïm Moniol,
le futur Messi. Naïm.
Le futur Messi.
Salut Hugo, le futur Messi de qui, de quoi?
Non, je rigole.
Ok.
Vous
abdiquez d'entrée, c'est plutôt ouais, une belle preuve d'humilité, c'est tout à votre honneur. L'Europe, messieurs, ce n'est pas que la Ligue des Champions, c'est aussi sa petite sœur. Place demain au demi-finale aller de la Ligue Europa et vous entendrez Philippe Doucet, Dominique Sévrac, Selim Bongali et Frédéric Suto qui étaient avec nous cet après-midi évoquer ces affiches. Vous les entendrez également parler du PSG, oui, encore et toujours, hein, le PSG qui repousse les limites du malaise. La crise s'intensifie dans le club de la capitale française. Tout va bien, en revanche, dans les coulisses de Radio Foot où David Finzel et Laurent Salerno sont à la manœuvre, même à cette heure tardive. Radio Foot, c'est parti.
Arturo Vidal, c'est bien fait, qui renverse le jeu. Coutinho, le soutien. Jordi Alba, le centre de Messi. Suarez ! Un événement, son premier but cette saison en Ligue des Champions. Luis Suarez, l'ancien de Liverpool, qui débloque la situation au Camp Nou.
Messi, alors oh, retour Fabinho, oui. Attention.
Léo Messi. Rythmé par le cop catalan.
Oh, qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce qu'il est bon ce coup franc! Magnifique! Splendide! Incroyable! Ah, ça vaut un bel hommage!
On va écouter, hein, parce que nous aussi on écoute.
Oui, il est mérité cet hommage du Camp Nou à Lionel Messi. Quand vous l'avez dans votre équipe, les choses sont un peu plus simples. Le plan de jeu d'ailleurs du Barça est relativement simple. Encore que le premier but catalan à la 26e minute, l'œuvre de Luis Suarez, enfin buteur en Ligue des Champions cette saison. Il ne doit rien à Lionel Messi. C'est non. Une belle action collective avec notamment une très belle balle, un très beau centre de Jordi Alba venu de la gauche pour Luis Suarez qui s'infiltre, qui devance Van Dijk. Van Dijk qui aura perdu un duel, qui aura perdu peut-être un peu de crédit ce soir, le défenseur de Liverpool. Le deuxième but catalan, premier but de Lionel Messi, à un quart d'heure de la fin, il intervient alors que son équipe est largement dominée. Ouais, on peut le dire comme ça. Il y a un coup de billard, Messi marque dans le but vide, c'est pas son but le plus difficile. En revanche, le troisième but catalan de la soirée, qui est également le 600e but pour le Barça de Lionel Messi. C'est vertigineux. Là, il est magnifique. Il ne doit rien à personne, coup franc d'assez direct. Loin, en pleine lucarne, direct. Comme ça, c'est très net. Alors, le match, Naïm Moniol, un Barça qui gagne 3-0, ça ne reflète pas exactement la physionomie de la rencontre. C'est vraiment Lionel Messi qui a fait la différence.
Ça reflète pas la physionomie de la rencontre, mais ça reflète assez bien la saison du Barça, c'est-à-dire une équipe du Barça qui laisse le ballon à l'adversaire, qui accepte de subir, de jouer dans sa moitié de terrain, qui s'expose, qui prend des risques, qui peut se faire rouler dessus un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Alors, ce soir, c'est très c'est criant parce que c'est la Ligue des Champions, que c'est une demi-finale, que c'est Liverpool. Moi, je l'ai vu cette saison en Liga face au Betis Séville, face à Retafe, face au Rayo Vallecano. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic. Le déclic, 9 fois et demi sur 10, c'est Messi. Alors, c'est pas toujours lui qui marque, mais il va aller récupérer un ballon. Il va dribbler 2-3 joueurs. Il va ouvrir un espace pour un joueur. Et puis, en l'occurrence, c'est lui qui a fait le ménage en première mi-temps en redescendant très bas. Il a permis notamment à Vidal de faire ce superbe changement de côté pour Jordi Alba.
Sur le premier but.
Voilà, sur le premier but. Et puis derrière, en deuxième mi-temps, il a travaillé, il est revenu un petit peu défendre au milieu du terrain à la première relance et il a marqué 2 buts. Vous l'avez dit, il y en a un qui est pas terrible, mais ça compte quand même. Et au final, oui, c'est lui qui a plié Liverpool à lui tout seul dans les faits. Sur le plan tactique, énorme bravo à Valverde, qui sera encore critiqué, on va dire. Son équipe, on s'ennuie, c'est moche, c'est pas le Barça, c'est pas l'ADN ceci. Ouais, mais les champions d'Espagne avec 8 points d'avance sur le deuxième et il est quasiment en finale de Ligue des Champions.
Seule la victoire est belle, Marc Ibra.
Seule la victoire est belle, mais je pense vraiment que cette équipe-là du Barça est faite pour pouvoir souffrir. On n'avait pas l'habitude de connaître ça. On prend l'exemple de Vidal. Je pense que Vidal, je pense qu'il ne pourrait, il y a peut-être 5-6 ans, j'aurais jamais dit Vidal peut jouer dans une équipe du Barça. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est peut-être pas forcément très beau à avoir joué dans le style. Par contre, c'est un joueur qui va au charbon. C'est un joueur qui est capable de... Au milieu de terrain, ben, s'il faut mettre un tampon, il va mettre un tampon. On a vu une équipe qui sait souffrir ensemble, parce que c'est vrai que c'est pas très beau. Comme Naïm, c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est pas très beau, les gens se plaignent. Mais aujourd'hui, il faut se dire que peut-être ce Barça-là est peut-être beaucoup plus intéressant à jouer comme ça. C'est pas beau, mais à l'arrivée, ça gagne. Parce que on se dit à tout moment, ils sont capables de courber les chines, de faire profil bas. Par contre... ils ont les joueurs qui sont capables pour faire la différence, parce que c'est vrai, sur la première période il y a l'action de Mané où il peut marquer, il ne marque pas ce petit lob. En seconde, il y a 10-15 minutes où vraiment Liverpool pousse et fait un petit peu la différence, il y a cette réussite, mais à l'arrivée le Barça a géré tranquillement. Donc on peut pas dire, je crois que le premier tir cadré c'est sur la 46, c'est
Milner. On
se dit c'est vrai, c'est pas très beau, mais bon, ça fait 3-0 quoi, c'est-à-dire que là ils vont en field tranquille, et puis, c'est une nouvelle façon de voir le jeu, je pense, côté Barcelone aujourd'hui, avec Valverde, qu'on le veuille ou non. Et j'espère que les gens vont comprendre maintenant que c'est une façon de jouer, et c'est la façon du Barça, parce qu'il faut le... Naïm l'a très bien dit, ils sont premiers depuis quoi, ils ont toujours été premiers, et puis c'est une machine qui tourne bien, mais c'est pas très beau.
Parce que mais si je vous suis, ça dépasse donc une simple Messi-dépendance. C'est aussi organisation, bonne assise tactique, et après c'est sublimé par évidemment le meilleur joueur du monde.
Mais évidemment, vous faites pas une saison comme fait le Barça uniquement avec un joueur, quand bien même il serait monstrueux, et il l'est, ses chiffres, on pourrait les donner toutes les missions, et on serait pas encore suffisamment précis pour dire tout ce qu'il a fait. Mais regardez, individuellement, ce soir, individuellement, la plupart des joueurs du Barça ont souffert. Sergi Roberto s'est fait manger par Mané. Au milieu de terrain, le pressing mis sur à peu près 70 minutes des joueurs de Liverpool, au milieu, ils ont été en grande difficulté. Ils ont couru, ils ont cravaché. On a vu Messi redescendre très bas. Ouais. Et c'est vrai que même dans l'axe, quand Naby Keita était encore sur le terrain, cette manière qu'il avait de prendre l'espace entre Busquets et la charnière, individuellement, ils ont fait souffrir. Mais collectivement, cette équipe est solidaire. Cette équipe sait, comme l'a dit Marc, faire profil bas, sait prendre des coups. Au final, ça a contré énormément de ballons. Ça a toujours empêché finalement les joueurs de combiner dans la surface. Est-ce que vous avez vu Mohamed Salah aujourd'hui réellement dans la surface en position d'être dangereux? Jamais. Quasiment jamais.
Donc il y a une organisation
impeccable. Il y a une organisation tactique. Il y a un plan de jeu. Il y a des mecs qui se sacrifient pour les autres. Il y a Messi qui vient défendre. Il y a évidemment tout un professionnalisme des joueurs. C'est aussi Valverde qui a insufflé tout ça. On le voyait pas sous Luis Enrique.
C'est surprenant. On imagine mal. On les a entendus. Ils sont heureux, les supporters catalans, mais on les imaginait plus esthètes, plus exigeants en termes d'esthétisme.
Ils ont connu ça à une certaine époque. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas retrouvé ce style-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour gagner une Ligue des Champions, pour arriver en finale, déjà, eux, ils sont capables d'y arriver. Et Semedo, quand ils rentrent, les deux commentateurs nous expliquent, ah ben là, c'est vrai, ça va être très défensif, puisque Coutinho, j'ai vu, Semedo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la mobilette, il a commencé à partir. Et en fait, le changement, alors, peut-être que c'est les consignes ou pas, mais en tout cas, Semedo, il a pris son couloir et il s'est pas arrêté. À partir de là, il y a un décalage, c'est-à-dire que d'un coup, ça penche à droite. Quelques instants après, il y a le but de Messi. Tout s'enclenche. Après, on parlera, je pense, de Jurgen Klopp qui a fait une grosse erreur, des erreurs gigantesques sur ce match. Mais en tout cas, Valverde sur les coachings, sur tout ce qu'il a été capable de faire, et ça peut bien se passer puisque quand Dembélé rentre à la fin, il peut marquer le quatrième but.
Puis faut arrêter avec ces histoires de le Barça, c'est esthète, le Barça, c'était esthète avec Xavi et Iniesta. Avant Xavi Iniesta, c'était pas super esthète, et depuis la fin de Xavi Iniesta, c'est plus super esthète. C'était super esthète parce que t'avais peut-être deux des meilleurs milieux de terrain de l'histoire dans ton équipe. À partir du moment où tu les as plus, tu dois t'adapter. Luis Enrique l'avait fait quand il avait Messi, Neymar, Suarez. Le milieu de terrain touchait plus du tout le ballon. C'est-à-dire que tu passais.
Oui, c'était déjà moins bien sûr, sur la possession. Tu passais de piquer.
C'était déjà moins dans la possession sous Tito Villanova. Sous Tata Martino. C'est déjà moins la possession à ce moment-là. Sous Luis Enrique, tu passais de piqué à Suarez et Messi et Neymar.
Tu balançais sur les côtés, ouais.
Bien sûr. Aujourd'hui, t'as un autre style. T'acceptes de souffrir, t'acceptes de prendre des coups. Tu laisses le ballon à l'adversaire, t'es dans ta moitié de terrain, tu défends. Regardez Messi. J'aurais aimé, parce qu'on a souvent pléthore de stats sur un match de foot et beaucoup ne servent à rien. Moi, j'aurais aimé ce soir avoir la statistique, la ligne à peu près où Lionel Messi venait récupérer les ballons. C'est même pas un 10, c'est un 6. Ouais, sur la deuxième mi-temps.
Exactement. Parce qu'on l'a vu prendre des coups à 30 mètres.
Regardez où il est venu rechercher le ballon.
Et on l'a vu même en fin de première période, Suarez et lui, on les a vus fatigués. C'est-à-dire, on a vu qu'ils avaient donné physiquement.
Bien sûr,
c'est pas le football de sénateur que peut-être
pendant longtemps on a joué sur eux, c'est-à-dire qu'ils se positionnaient à la ligne médiane pour pouvoir attaquer. Là, on l'a vu sur des plans du réalisateur, on voyait un groupe très qui jouait sur 25-30
mètres. Et ça, en termes d'état d'esprit, fait que ce Barça soit prêt à souffrir, c'est un vrai plus.
C'est
une évolution à souligner.
C'est un plus. C'est-à-dire qu'à une époque, il avait presque pas besoin de souffrir, vu le jeu qu'il pratiquait, vu les joueurs qu'il avait. Quand il était amené à souffrir, généralement d'ailleurs, il perdait, parce que c'était pas son truc. Là, depuis quelque temps, et on l'a déjà vu sous Luis Enrique, on le voit aujourd'hui beaucoup sous Valverde, ils savent souffrir, ils savent mal jouer. C'est-à-dire que le Barça a presque appris à mal jouer, malgré les joueurs qu'il a, malgré l'effectif, malgré le style, malgré l'histoire, il a presque appris à mal jouer pour gagner des matchs. Et ce soir, et cette saison en général, le Barça a souvent mal joué, mais a très souvent gagné ses matchs.
Est-ce qu'il a envoyé un message à l'Europe? Le Barça partait favori, on va dire, au moment où démarrait ce dernier carré, partait favori pour la victoire finale, parce que c'est peut-être le nom le plus ronflant demi-finales. Est-ce que là, il a envoyé un message fort? Il y a le Barça, il y a les autres dans ce dernier carré de Ligue des Champions.
Quand vous avez un joueur,
je m'avance un petit peu, mais
quand vous avez un joueur qui marque plus de buts, qui joue de matchs, et quand vous êtes champion du championnat de football le plus difficile du monde d'un point de vue technique, avec 8 points d'avance sur le deuxième, je pense que vous envoyez un message depuis un moment.
Depuis le départ. Après, faut bien se dire que depuis quelques semaines, on voyait bien Liverpool passer devant Barcelone et faire la différence. Parce que même cet après-midi, je croyais qu'il me dit, ah, mais non, mais Liverpool, ils vont faire la différence. Vous allez voir les trois de devant. Le problème, c'est que les trois de devant, ils étaient pas trois, ils étaient deux, il en manquait un.
C'est un
problème.
Alors justement, parlons de Liverpool, parce que effectivement, il y a peut-être des circonstances atténuantes pour les Reds et pour Jürgen Klopp, une absence de taille d'entrée de jeu, celle de Firmino, qui forme avec Salah et Mané un trio d'attaque extrêmement redoutable. C'est peut-être pas celui dont on parle le plus, et particulièrement ici à RFI, on aime beaucoup parler des joueurs africains, mais Firmino, c'est un rouage essentiel de l'activité offensive des Reds. Il a beaucoup manqué.
Il a énormément manqué. Alors, on peut voir qu'au bout d'un quart d'heure, on peut faire un changement, ou même à la mi-temps. Klopp n'a absolument pas réagi, ça c'est très surprenant.
Terrible.
Faut se dire qu'aujourd'hui, Firmino est un élément essentiel pour pouvoir aux deux autres joueurs de pouvoir s'exprimer, on le voit. Alors c'est vrai qu'il y a cette guéguerre au niveau des buts, ils tirent tous la bourre entre Mané, entre Salah. Firmino est un élément important. Pourquoi il rentre à la 80, enfin quand c'est fini quoi. C'est-à-dire que
il était blessé.
Si tu le fais jouer un quart d'heure, alors il joue pas 10 minutes.
Si tu le fais jouer un quart d'heure,
il joue pas. Non mais quand on est blessé, on est à la maison, dans le canapé, on mange des chips et on regarde le match. Si on est sur le banc, c'est qu'on est capable de jouer. Donc il faut. Non mais chaque fois, c'est quelque chose qui est assez terrible et malheureusement, on a bien vu que les occasions de Mané, il en a deux, il aimait pas. Alors on dit ouais, mais le poteau de Salah, il a pas de chance. Ben c'est malheureusement, c'est l'écart qui reste à passer pour ces joueurs là. Pour pouvoir accéder à autre chose, et aujourd'hui c'est trop court, les attaquants ont été trop courts. Ça a réussi en Angleterre, sur la scène européenne d'autres clubs, mais face au Barça ça n'a pas réussi.
Une première réaction, messieurs, à un homme dont on a beaucoup parlé, et c'est bien normal, Lionel Messi.
4-0 c'est très mieux que 3-0, mais c'est un très bon résultat. De ne pas avoir pris de but, c'est très bien. On a été supérieur, on est allé chercher ce résultat, on a mis la pression. En deuxième période, ils nous ont mis la pression et on n'a pas eu beaucoup d'occasions parce qu'il y avait un pressing très haut et eux ils voulaient absolument marquer, parce que quand on n'est pas à domicile, évidemment le fait de marquer un but ça fait la différence, mais on a subi et on a réussi à sortir tête de l'eau.
Lionel Messi au micro de nos confrères d'RMC Sport. Hein. C'est également les commentaires d'RMC Sport qu'on entendait en début d'émission. Alors, on parlait de l'absence de Wijnaldum, plutôt l'absence de Firmino, remplacé par Wijnaldum. Ça a donné plutôt un milieu à 4 avec deux attaquants et Wijnaldum.
Il était même devant, il était partout.
Il faisait une espèce de trait d'union entre le milieu et l'attaque. C'était un rôle hybride, un peu étrange. Mais c'est... alors, je rebondis sur ce que dit, sur ce qu'on vient d'entendre de dans la bouche de Lionel Messi. Au milieu de terrain, ça a plutôt bien fonctionné. Il a plutôt été bon, ce milieu de terrain de Liverpool. Oui, mais c'est dans le lien avec l'attaque que ça a pêché.
Il a été bon, il a été bon. Le milieu de terrain a été bon. Et peut-être parce que Wijnaldum, justement, n'a pas fait partie. Et c'est là où moi, je vois une vraie défaillance dans l'équipe de départ de Klopp. C'est que, à partir du moment où tu peux pas faire jouer Firmino, sur le banc, t'as Origi, sur le banc, t'as Sturridge. Ils sont évidemment moins forts que Firmino, mais ce sont des attaquants de métier. Et quand bien même ils n'auraient pas les mêmes caractéristiques que Firmino, ils peuvent au moins essayer de faire le travail de sap qui met en lumière les deux autres. Là, en mettant Wijnaldum devant, non seulement tu l'as pas pu, il n'a pas pu travailler au milieu, décrocher pour venir servir de point d'appui, mais en plus de ça, devant, il était absolument inutile. Et moi, ce que je me suis dit en première mi-temps, et je vous l'ai dit d'ailleurs, Hugo, c'est Liverpool a joué à 10. A joué à 10 parce que Wijnaldum, c'est pas son rôle. Il n'a pas été l'attaquant qui pèque, évidemment, qui permet de faire briller les deux autres, mais il n'a pas non plus été le milieu qu'il est en temps normal quand il est aligné au milieu,
avec
c'est-à-dire qu'il permet, avec de l'activité, de faire monter le bloc. Et quand Naby Keita est sorti, parce
c'est
que ça aussi,
ça,
c'est un sacré tournant dans
j'allais,
ce match.
La
sortie de Naby Keita, qui a amené cette espèce de caution technique au milieu de terrain qui permettait
ça change tout.
De faire monter le bloc, de prendre le fameux espace entre Busquets et Piqué, entre Busquets et la charnière centrale, de permettre à Mané, de décaler Mané sur les côtés, de décaler ça. À partir du moment où Naby Keita est sorti, tu n'avais plus ce milieu de terrain qui te faisait monter le bloc et qui justement compensait un petit peu le fait que Wijnaldum ne décrochait pas. Là, ça a commencé. Alors, en première mi-temps, ça s'est moyennement vu parce que Liverpool a globalement joué dans la moitié de terrain de Barcelone. Par contre, en deuxième mi-temps, quand il a commencé à avoir la fatigue, quand il a commencé à avoir les espaces, quand Barcelone a commencé à sortir, quand Messi a fait son show, ben, ils l'ont payé cash.
Naby Keita, obligé de sortir la 24e minute, sortie extrêmement précoce
sûrement,
du milieu de terrain guinéen. Alors, en plus, on va s'inquiéter. Parce qu'il y a la CAN qui arrive. Et effectivement, Naby Keita, c'est l'un des joueurs qu'on a vraiment envie de voir sur les pelouses égyptiennes cet été. Vous pensez que ça a été le tournant, et ça faisait beaucoup. Firmino avant le coup d'envoi, et là, vous perdez Naby Keita, ça fait quand même beaucoup pour Jürgen Klopp.
C'est un joueur essentiel qui est en pleine confiance. On a encore vu marquer.
Il avait fait un bon début
but.
De match, en plus. On le voyait conserver le ballon. On voyait sa qualité.
Oui, c'est une caution un petit peu plus technique qu'Anderson quand il rentre. Et c'est vrai que déjà que Wijnaldum n'arrive pas, il ne sait pas se positionner entre l'attaque et le milieu de terrain, une fois oui, une fois non. Ben, ça s'est vu directement. C'est malheureux pour lui. Après, au niveau de l'adducteur, bon, ben, il s'est arrêté net, ça n'a pas forcément lâché, donc bon, je pense que pour la CAN, j'espère que pour lui, ça ira. Mais là, quand vous prenez 3-0, est-ce qu'on va insister parce qu'il reste deux matchs de championnat en première ligue pour essayer d'aller rattraper Manchester? Je ne sais pas. C'est à lui aussi de gérer cette peut-être fin de saison qui peut-être il peut se reposer pour préparer la CAN.
À ce moment-là, il y a 0-0 hein, quand il sort du
22e
terrain.
22e, il sort.
Naby Keita, c'en est vraiment quelques minutes avant le premier but du match, le but de Suarez. Est-ce que on peut qualifier vraiment que partir du principe que c'est un tournant et que avec lui sur le terrain, ça aurait été totalement différent?
Alors, je dis pas que ce serait totalement différent et que Barcelone n'aurait pas gagné. Par contre, ce que je dis, c'est que on aurait quand même eu un joueur technique au milieu, capable de prendre les espaces, de faire jouer Liverpool plus haut et de donner des ballons en situation de but. Et on va revenir à ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Combien de fois dans ce match on a vu Mohamed Salah servi en position de tir, en position d'être dangereux dans la surface de réparation?
Vous n'avez pas aimé son match?
Non, je n'ai pas aimé le match de Mohamed Salah tout à l'heure.
Putain, il a fait des différences.
Tout à l'heure, Marc a dit, dans le trio, il en manquait deux. Moi, j'ai dit, il y en avait un et demi.
Il a fait des différences. On a vu, par exemple, Clément Lenglet, ouais, parfois un petit peu en difficulté, Marc Libra.
Oui, mais ce qu'on a vu aussi, on s'aperçoit que dans le dernier geste, c'est-à-dire les centres, on a vu beaucoup de centres qui n'étaient pas au bon endroit. C'est des centres qui sont arrivés au second poteau, au troisième poteau, comme on dit vulgairement, au poteau de corner. Et ça, c'est un petit peu dommage. À ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Il faut être le plus précis possible. Il y a une occasion, il faut la mettre parce que on n'a pas 3, 4, 5 occasions. Et ça, c'est malheureux parce que Liverpool, sur l'ensemble du match, on peut dire, ah, mais ils méritent de mettre un but. Ouais, ils méritent, mais ils n'ont pas mis le but. Et dans le dernier geste, ils l'ont pas fait.
Et Sadio Mané.
Sadio Mané.
Qui a failli obtenir un penalty à 0-0.
Ouais,
alors.
Qui a failli obtenir un penalty.
Autre tournant, peut-être.
Qui a eu énormément.
Piqué le pouce légèrement.
Ouais, enfin, après, si c'est ça, il y a aussi un tournant, alors qui compte pas parce qu'il y a 3-0, c'est la main de Matip dans la surface.
Bah pareil, à 0-0.
Voilà. Donc bon, voilà, on va dire que c'est une erreur partout. Moi, Sadio Mané, il a fait un match individuellement correct, puisque je vous l'ai dit, Sergio Roberto, en première mi-temps, il a pas touché le ballon une fois. J'ai vu beaucoup accélérer sur son côté. Grosse activité. Lui, il est rentré dans la surface en position d'être dangereux. Après, il y a deux choses. Il y a son raté, pied gauche face au gardien, ou à ce niveau-là, tu ne peux pas le rater. Pas quand t'es meilleur buteur.
Il tente le lob. Ouais.
Quand t'es meilleur buteur de première ligue, tu peux pas rater ça en Ligue des Champions. Et puis, deuxièmement, il s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps, parce qu'il avait aussi beaucoup donné physiquement, mais ça, ça peut se comprendre.
Est-ce qu'il y a un plafond de verre pour cette équipe de Liverpool? Est-ce qu'on peut simplement expliquer la différence de trois buts par les blessures Firmino, Keita?
Non, non.
Ou bien tout simplement, il y a trois buts d'écart.
C'est une équipe qui a l'habitude d'évoluer. Moi, j'ai évolué souvent à deux ou à trois, et quand j'évolue à trois, on avait chacun son compartiment du terrain à travailler, sa zone de travail. Là, d'un coup, sur un match comme ça, ben finalement, Wijnaldum doit prendre la... Non, en fait, c'est pas possible. Donc, en fait, on a vu un Sadio Mané qui va faire beaucoup plus d'efforts que prévu. On a vu un Salah qui a fait beaucoup plus d'efforts que prévu, mais presque dans le vent. Et on l'a vu partir faire ses rushs solitaires, mais souvent, il y a Firmino qui vient décrocher pour lui faire l'appui. Et là, il n'y a pas de truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Et en fait, ça donne ce genre de choses. Et c'est dommage parce que malheureusement, sur ce match-là, c'est vraiment dommage, quoi.
Alors je vais reposer ma question. Est-ce que dans l'absolu il y a trois buts et donc trois classes d'écart, que c'est râpé pour le match retour, tout simplement?
Il faut pas se mentir, Barcelone est quand même très très bien parti pour être en finale de Ligue des Champions.
Parce 4 que ça aurait été mieux quand même.
Le problème, c'est pas que Liverpool peut pas remonter trois buts à Anfield. Le problème, c'est que Barcelone peut marquer partout. Regardez Lionel Messi, le coup franc direct qu'il met ce soir, il peut le mettre sur n'importe quelle pelouse. Les contres de Barcelone, ils peuvent le mettre sur n'importe quelle pelouse. Regardez la puissance offensive. Et puis, il faut voir aussi quelque chose qu'on a vu ce soir, qu'on a peut-être pas l'habitude de voir en première ligue, mais qu'on a vraiment vu ce soir, c'est que, à un moment donné, défensivement, Liverpool, ça commet des erreurs. Joël Matip a fait un match déplorable. Je vais même pas revenir sur l'épisode de sa main parce que c'est scandaleux, c'est pénalty carton rouge. Mais regardez avec quelle facilité Suarez, sur le premier but, arrive à s'infiltrer entre la défense
centrale.
Regardez
le nombre de fois. J'ai quand même l'impression que c'est pas le Camerounais qui est en cause, mais plutôt Virgil van Dijk, le soi-disant meilleur défenseur du monde.
Virgil van Dijk se soit fait prendre à la vivacité par Luis Suarez, je peux le comprendre. En même temps, il y a 30 cm d'écart entre les deux, donc sur les appuis ça déclenche pas la même vitesse, mais Joël Matip fait pas un bon match ce soir, ni dans son placement ni dans ses relances. Je l'ai trouvé globalement très mauvais sur ce match, mais vous avez le droit, parce qu'on est sur RFI, de dire que vous l'avez trouvé bon, Hugo, hein.
Moi j'ai pas dit ça, j'ai dit que
moi je l'assume complètement.
Vous ne parliez pas de Van Dijk.
Je n'exclus pas Van Dijk, qui s'est fait prendre sur le premier but, il s'est fait aussi prendre sur le deuxième,
mais même sur le côté Messi a tout fait.
Il n'y a aucun souci, moi je suis pas en train d'ériger une statue à Van Dijk. Je dis simplement que défensivement, ce Liverpool-là montre beaucoup de faiblesses. Et en l'absence d'Alexander Arnold, puisque c'est Joey Gomez qui jouait sur le côté droit.
Un troisième absent de marque.
On les a vus beaucoup. Le seul qui a vraiment été à son niveau derrière, c'est Robertson. Aussi bien défensivement que sur l'apport offensif.
Marc? Ouais, mais après, Naïm met le doigt sur quelque chose. Encore une fois, en Ligue des Champions, on laisse 30-40 cm, c'est fini, quoi. On peut le faire en première ligue, mais face à de tels joueurs, eh bien, on ne laisse pas 30, on ne le laisse pas partir, on ne lui laisse pas les devants, parce qu'à ce niveau-là, eh bien, on n'arrive pas à l'attraper. On a vu Van Dijk qui fait la différence en première ligue, qui monte sur les mecs, il a gagné ses duels. Par contre, quand c'est balle au pied, c'est plus difficile. Et c'est difficile pour tous les défenseurs quand on a des joueurs qui sont toujours les premiers.
Quelques messages de nos auditeurs sur la page Facebook de Radio Foot International. Eux aussi, quelque part, participent au débat du soir. Avec Aristide de Mansala Ifiake, très fair play. Je suis supporter de Chelsea. Je suis fan de Cristiano Ronaldo, mais cela n'exclut pas la reconnaissance de la suprématie de Léo Messi. Bon courage à lui. Ça, c'est très fair play.
Paul Mondo, très fair play aussi. On peut dire à Aristide que sûrement Messi a validé son ballon d'or.
Alors justement, des messages. Alors d'abord, des messages de Paul, le message de Paul Nando, tu es le meilleur, je m'incline, adressé à Messi. Et effectivement, des messages concernant le ballon d'or. Vous lisez dans les pensées de nos auditeurs, mon cher Marc.
On est connecté.
Voltaire le pharisien noir, ça c'est du surnom. Est-ce que Messi ne mérite pas déjà son sixième ballon d'or, quel que soit le résultat à venir de cette demi-finale et de la Ligue des Champions? Brahima Djolaïko Traoré, lui, il veut même qu'on renomme le football en Messi-ball. Alors là, il veut carrément changer le nom du football.
Mais il a
Telly
pas
Mouli, il est à mi-chemin entre les deux. Il faut penser à créer un ballon de diamant pour Messi, puisque le ballon d'or n'est plus de sa catégorie. Bon, on va pas reprocher à nos auditeurs, et notamment les fans de Lionel Messi, de s'enflammer.
C'est pas bête de le rebaptiser Messi ou Ronaldo.
Il joue pas le même sport que les autres. après tout.
Mais non, ils jouent pas, mais ils font pas le même sport que nous. Mais c'est, attendez, c'est logique, ça. C'est pas mal, ça.
C'est vrai, alors la question du Ballon d'Or,
dans une année.
Ça vient de plus en plus vite, hein, donc on peut légitimement peut-être la poser. Il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro.
C'est pas que ça vient de plus en plus vite, c'est que les gens ont compris que la seule compétition qui prime vraiment, c'est la Ligue des Champions pour le Ballon d'Or. S'il peut y avoir un Euro, une Coupe du Monde, ouais, hein, c'est la Ligue des Champions.
Il donc en est à 12 réalisations, c'est le meilleur buteur de la compétition.
C'est le meilleur buteur. Il a été bon. Alors on dit ouais, mais ils ont joué que Lyon, ils ont joué que Manchester. Bah ce soir c'était Liverpool. En phase de poule, il y avait quand même Tottenham et l'Inter. Il a marqué des buts, il a fait des passes décisives, il fait des différences, et il fait des différences que les autres ne font pas.
Et Naïm aujourd'hui, qui nous fait vibrer à part Ronaldo et Messi? C'est-à-dire quand vous avez vendu Neymar, c'est caca boudin, ça marche pas. Mbappé, c'est pareil, ça marche pas. Et pour aujourd'hui, les deux, pour l'instant, il faut qu'il se bouge un peu le garçon, parce qu'on l'annonce comme Messi, mais il est très très long Messi et de Ronaldo, donc les deux nous font rêver. Donc on valide.
Vous validez les commentaires des auditeurs. Qu'est-ce qui pourrait, il faut quand même qu'on se raccroche à quelques branches pour conserver l'intérêt du match retour pour Klopp. Qu'est-ce qui peut
Klopp est fautif.
Leur pousser à espérer un exploit.
Si Barcelone a 17 blessés et 24 suspendus et que l'arbitre est favorable à Liverpool et qu'il y a 5 pénalties dans les 5 premières minutes, oui, peut-être que Liverpool se qualifiera pour la finale. Non, je rigole, mais écoutez, le football est un sport imprévisible par définition. Donc
l'ambiance d'Anfield,
on n'est pas à l'abri d'un match complètement fou à Anfield. Tu mets un but, tu mènes 2-0 à la mi-temps, après ça peut devenir fou, t'as un exclu, t'as quelque chose. Après, on va pas non plus vendre du suspense et vendre du rêve, hein, ce que Barcelone a montré ce soir. Moi, je vois pas qui peut les rattraper.
Tout est possible. Marc. Maintenant, ils ont pris un coup sur la tête, quoi qu'il arrive, parce que je pense en aucun cas, vu le match qu'ils ont fait, qu'ils en prennent 3. Mais il y a surtout une échéance encore en première ligue, parce qu'il y a toujours un espoir pour. Et là, c'est peut-être que ce week-end, ils vont avoir le deuxième coup de bâton et la semaine prochaine, alors là, ça va être très compliqué, parce que là, je pense, on peut se dire, on va perdre. Par contre, de cette façon-là, où on a toujours l'impression, quand on est fouteux, on a dominé, on a fait le poteau, on a eu plus d'occasions, on les a bougés, mais on a perdu 3-0. Et là, dans la tête, ça fait très mal. Donc, j'espère que ce week-end, ils vont se relever, parce que ça va être très, très dur.
Jürgen Klopp.
Il marque 2 buts. J'ai rien à dire. Donc, bien sûr, le coup franc est incroyable. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'il a déjà remporté énormément de trophées dans sa vie. C'est un footballeur formidable. Mais évidemment, on ne peut pas défendre sur lui pendant 90 minutes. C'est comme ça. On a vraiment joué un très bon match de football et nous n'avons rien obtenu. C'est la dure réalité, mais c'est pas la première fois dans ma vie que ça m'arrive. Mais bon, on réessayera. Ce sera pas facile.
Jürgen Klopp qui parle évidemment de Lionel Messi, qui reconnaît la suprématie, la supériorité plutôt du Barça, et surtout la supériorité de Lionel Messi. Mais ça, vous aimez pas ça?
Non, j'aime pas, parce qu'il a pas su réagir. Je suis désolé. À la mi-temps, Naïm, on est tous ensemble, on voit que Wijnaldum n'est pas dans le coup, que Wijnaldum n'aide absolument pas son équipe, mais fait rentrer Origi. Alors si Origi est à 100% et que Firmino est à 15% c'est pas possible. Il doit réagir avant, et tu le fais pas rentrer quand tu prends le troisième. Tu le fais rentrer pour quoi faire? Pour rien. Donc il a fait une grosse erreur, malheureusement.
Ouais, je suis d'accord avec Marc, il s'est un peu raté sur son coaching.
Sur le coaching et sur la composition de départ.
Moi je suis d'accord avec ce que disait Marc tout à l'heure. Si le mec il peut jouer un quart d'heure, il peut jouer au moins une mi-temps. Et quand tu vois la première mi-temps de Wijnaldum, tu dois réagir tout de suite. Il y a certains entraîneurs qui auraient même réagi en première mi-temps. Donc après tu peux adapter ton dispositif, tu peux même
Il y a que 1-0 à la mi-temps.
Tu peux même faire rentrer Shaqiri, le mettre en 10 et puis jouer à 2 devant. Tu peux trouver un truc. Les joueurs sont polyvalents. Liverpool sont professionnels quand même. C'est des joueurs de niveau Ligue des Champions. Donc voilà, il s'est raté. Ça explique en partie, pas totalement, mais en partie la contre-performance du soir.
La contre-performance, cette défaite de Liverpool 3-0 au Camp Nou, Suarez, Messi, 600e but pour le Barça, pour Lionel Messi. Tout premier, il avait été inscrit un 1er mai également, en 2005, c'est ça?
Il y a 14 ans, donc 2005, ouais.
Voilà, donc 14 ans, jour pour jour.
On se rend compte.
Ouais, mais pas en Ligue des Champions. J'ai pas de souvenir.
J'étais en Écosse, c'était bien
aussi l'Écosse. Donc 3-0, le match retour c'est mardi. Et on rappelle que dans l'autre demi-finale aller, l'Ajax s'est imposé sur le terrain de Tottenham. Donc c'est pas terrible le bilan pour les clubs anglais. Et là, le match retour, ce sera mercredi prochain. Merci Naïm Moniol.
Grand plaisir.
Merci Marc Libra.
Merci Hugo. Merci à tous.
Merci à nos visiteurs du soir. Tout de suite, on parle de la Ligue Europa avec nos visiteurs de l'après. l'après-midi. Il y avait Dominique Sévrac, Philippe Doucet, Frédéric Suto ou encore Salim Bankedi.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Place à la Ligue Europa à présent. C'est pas la Ligue des Champions, mais c'est intéressant.
Avec l'ami de Dominique Sévrac.
C'est qui? Unai Emery, exactement.
Une compétition sans mesure.
Il a tellement d'amis, Unai Emery.
Il fumait ensemble.
Il y a aussi Kevin Trapp, hein, Kevin Trapp qui peut être un ami de Dominique Sévrac. Ouais. Francfort, qui reçoit Chelsea. Et le Valence de Kevin Gamero, pardon, qui se déplace sur le terrain de l'Arsenal de Unai Emery. Donc ça, c'est à suivre demain, les demi-finales allées de la Ligue Europa. Alors ce qui est intéressant, on parlait de Tottenham, club anglais engagé en demi-finale de Ligue des Champions, mais qui n'est pas forcément en forme. On peut en dire de même pour les deux autres clubs londoniens encore en course en Coupe d'Europe. Chelsea qui reste sur deux matchs nuls, Salim, Arsenal qui reste sur trois défaites de rang. Bref, on les pensait favoris, ces clubs londoniens, dans cette Ligue Europa, et la donne a peut-être changé.
Non, mais autant Chelsea, alors je ne sais pas si on les pensait forcément favoris parce qu'il y a Francfort en face. Alors certes, parce que c'est Chelsea, parce que on a eu l'impression de gros effectifs avec certaines personnalités. Eden Hazard, évidemment, fait partie. Mais en face, il y a quand même Francfort qui, depuis le début de cette compétition, montre une qualité de jeu rare, offensivement très intéressante, qui, lors du tour précédent, malgré une défaite à l'aller 4-2 face à Benfica, avait réussi à renverser la vapeur en s'imposant 2-0, 4-2 en étant à 10 dès la 15e minute de mémoire, hein, face au Portugais. Donc, c'était pas tout à fait une rencontre équilibrée. Et au final, donc, avait réussi à se qualifier. Et puis, donc, Francfort joue très bien avec notamment ses stars, Jovic, qui a été officiellement acheté à Benfica. D'ailleurs, je rappelle qu'il a été acheté, l'option a été levée aux alentours des 8 millions d'euros, ce qui est une somme ridicule, évidemment, parce que Benfica...
Quand il a signé une option, il a signé une
exactement,
option.
Exactement, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est signé.
Exactement, ça veut dire que Benfica n'y croyait pas du tout, en fait, et Francfort l'a levé il y a bien deux ou trois semaines, en se disant, ah, on va l'acheter parce qu'il y a d'autres clubs qui vont bien vouloir l'acheter, donc autant en profiter. Donc il a été acheté pour 8 millions d'euros, et lui, et pour le coup, Francfort est vraiment une très bonne équipe. Je ne suis pas certain que Chelsea soit si favori que ça. En revanche, Arsenal, alors, malgré les défaites et les trois lourdes défaites, à chaque fois en concédant 3 buts, je reste persuadé qu'Arsenal reste devant malgré tout. Parce que Valence, il y a quand même beaucoup de réussite dans son parcours tout au long de cette saison. Alors même s'il y a Kevin Gamero qui a déjà gagné 4 fois cette compétition.
Avec Unai Emery.
Avec Unai Emery notamment. Je reste persuadé qu'il y a un truc quand même au-dessus pour Arsenal.
Il a entraîné Valence d'ailleurs.
Unai Emery qui s'est révélé même, j'ai envie de dire, aux yeux du grand public à Valence. Donc un match spécial pour lui, une compétition spéciale pour Unai Emery. Est-ce que vous êtes confiant pour ces Gunners, Dominique Sévrac?
En tout cas, je sais qu'aujourd'hui Chelsea et Arsenal se disent que c'est le plus court moyen d'être en Ligue des Champions la saison prochaine, puisque le vainqueur de la Ligue Europa...
But qu'ils essayent également d'atteindre.
Mais ils ont
via le championnat, et ils ont notamment la lutte avec
Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans le Big Four.
Chelsea 3e, Arsenal 5e.
Chelsea est encore grâce à son nul à Manchester.
Chelsea est 4e, Arsenal 5e. Et pour être complet, Francfort 4e de son championnat, Valence 6e. Donc on est... On a c'est quatre clubs qui naviguent à peu près dans les mêmes eaux.
Et j'ajouterais, Hugo, que depuis les quarts de finale de Ligue Europa, aucun de ces quatre clubs n'a gagné le moindre match en championnat. Et c'est des défaites ou des matchs nuls. Donc ça coûte de l'énergie, la Ligue Europa.
Bien sûr. C'est intéressant, ça.
Et ça a une incidence sur la France, puisque donc il faudrait qu'il soit déjà qualifié par son championnat. C'est le vainqueur de Ligue Europa.
Ce qui permettrait de qualifier directement le 3e de la Ligue 1.
Ça serait bien. Mais bon, ça, c'est accessoire, parce que c'est pas ça qu'ils pensent, Kevin Trapp et Kevin Gamero et les autres. Moi, je suis vraiment intéressé par une finale Chelsea-Arsenal parce que j'ai envie d'un spectacle ultime. J'ai envie de savoir si Chelsea la gagne, ce que le propriétaire fera de Sarri, parce qu'il y a deux mois, il voulait le virer. Donc, qu'est-ce qu'il ferait si Maurizio Sarri gagne la Ligue Europa? Quant à Unai Emery, s'il gagne la Ligue Europa, je dirais bravo, parce que c'est un spécialiste. Il a déjà gagné 3 fois avec Séville. Ça peut être une 4e fois dans un club différent. C'est encore plus dur. Voilà, c'est juste que c'est une compétition sa mesure, c'est pas méchant, c'est qu'il a trouvé la compétition sa mesure, mais c'est déjà pas mal. Hein.
Et je rappelle que Rafael Benitez, il avait remporté la Ligue Europa en 2013 avec Chelsea, puis il avait été mis de côté assez rapidement.
Après, il devait rester que pour 6 mois, lui, Benitez.
Ouais, en tout cas, il avait remporté, il avait été viré, donc pourquoi pas pour Sarri. Philippe Doucet, ça vous fatigue, la Ligue Europa? Je vous ai entendu un petit peu souffler.
Pas du tout, parce que vous ne le savez pas, mais tous les jeudis, je fais des matchs de Ligue Europa et je serai à Arsenal demain. Enfin, à Londres.
Et là, les affiches sont...
Parce qu'Arsenal, c'est un peu difficile.
Et là, les affiches sont séduisantes, avec un vrai second chapeau européen.
On a cette année un... Et en plus, c'est des équipes, pour la plupart de celles qu'on cite, peut-être les quatre, qui ont débuté en Europa League. Il n'y a plus d'équipe de Champions League.
Oui, tout à fait.
Je ne dis pas de bêtises. Hein. Il n'y a que des équipes qui
ont... Non, sauf Valence. Valence était dans le groupe de Manchester.
Oui, c'est vrai. Valence a basculé.
Et a reversé.
Et reversé, voilà. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Et en tout cas, trois équipes sur quatre, et notamment les deux favoris, ont fait l'Europa League toute l'année. Donc ça a été plutôt une bonne édition, peut-être pas pour les clubs français, mais pour le reste, ça a été une... Enfin, Rennes a été sympa, mais c'est une belle édition où il y a toute l'année, on s'est dit, tiens, c'est un coup à jouer pour Arsenal, Chelsea et autres. Mais moi, depuis le début, je suis quand même mesuré, mais là, je parle sur l'ensemble. C'est-à-dire que tout le monde me dit que le football anglais domine à nouveau l'Europe.
Quatre demi-finalistes. Ce n'est pas mon sentiment.
Alors, quatre demi-finalistes, qui avaient en plus en quart de finale au moins un ou deux clubs de plus.
En Ligue des Champions,
il y avait les deux Manchester, il y avait six clubs, donc il y avait une prédominance en termes de nombre pour l'Angleterre. J'attends quand même de voir à l'arrivée, et ça concerne aussi l'Europa League, si le vainqueur sera bien anglais. J'en doute en Ligue des Champions, j'en doute aussi un peu moins, mais j'en doute quand même en Europa League. Une finale anglaise me surprendrait. Je serais surpris que ce soit Arsenal-Chelsea. Je pense qu'un des deux aura du mal à passer. Je ne sais pas lequel.
Les demi-finales allez, donc, de cette Ligue Europa. À suivre demain, on y reviendra, bien évidemment, vendredi, dans le Café des Sports de Radio Foot.
Les Rennais qui ont parlé de remontada samedi soir au Stade de France. Les Montpellier en Rennes également.
C'est pas possible.
Et le ballon perdu. Incroyable. Incroyable fragilité. Camara, le super sub. Le regard de Neymar. Le naufrage encore du Paris Saint-Germain. Rien ne va plus. Rien ne va plus en cette fin de saison pour le champion de France en 10.
Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch ein Trick.
C'est bien Thomas Tourelle qui s'est énervé. Alors on a un petit peu, on a réalisé un petit montage puisque là c'était un extrait d'une vidéo où on voyait Thomas Tourelle s'énerver à un entraînement lorsqu'il entraînait Dortmund.
Ah, mais voilà,
on a imaginé ce qu'il a pu se passer dans sa tête au moment où il a vu son club, le Paris Saint-Germain, s'incliner une nouvelle fois, s'enfoncer de nouveau dans la crise en s'inclinant à Montpellier hier, l'occasion de la 34e journée de championnat. Thomas Tourelle, il s'est exprimé en français, non pas en allemand, au micro de nos confrères de Canal+, au micro de Pierre Ménès.
Ça peut venir. Ça peut venir, mais on doit rester calme, pas perdre notre tête et parler avec le directeur sportif, avec le club, avec le président. Et peut-être on change beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui peut venir? J'avais oublié de le préciser. La question de Pierre Ménès, c'était est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de changements dans l'effectif du PSG? Est-ce qu'il peut y avoir une grande lessive? Et lui, il dit... Ça peut venir. Elles sont assez cash ces déclarations, Dominique. C'est vrai qu'il perd de plus en plus son filtre quand il s'exprime après les rencontres, après les convenus de son équipe. Elles sont nombreuses. On les a longuement énumérées ces derniers temps dans Radio Foot. Voilà. Là, il s'exprime clairement. Là.
Moi, je trouve que depuis le début de son mandat, qui a débuté en août dernier, il est quand même assez cash. Il dit les choses. Hein, au Mercato, il a dit Antero Henrique a ses avis, moi j'ai les miens. Moi, j'avais jamais entendu un Laurent Blanc ou une Unai Emery remettre en cause un Letang, un Cuivert, un Leonardo, un qui vous voulez. Donc, il dit les choses. Il dit les réseaux sociaux, moi j'aime pas ça. Donc, voilà, il y a des phrases quand même depuis le début. Encore une fois, Unai Emery et Laurent Blanc, c'était beaucoup plus lisse. Carlo Ancelotti, c'est un patelin, c'est un bonhomme. Il sait très bien jouer avec les médias. Thomas Tuchel, il va. Le truc, c'est que est-ce qu'il aura, il dit ça, mais est-ce que le PSG aura la liberté de faire une grande lessive? Est-ce que il peut vendre 5 ou 6 joueurs? Alors, si l'Europe le sait, bah, les joueurs, vous les vendez moins cher. Si tout le monde sait que Draxler, Kurzawa, Meunier, Nkunku sont à vendre, et ben, forcément, ils n'ont plus le même prix. Et puis après, on sait que le Paris Saint-Germain a de l'argent, mais qu'il est contraint par le fermé financier. Et donc, s'il veut les remplacer par Ndombele, Alan, Pépé, tout ça, bah c'est des joueurs entre 60 et 80 chacun. Alors là, je vous ai cité 3 joueurs que Paris Saint-Germain pourrait prendre, ça pourrait faire déjà 250 millions d'euros. Vous savez bien que c'est pas possible. Bah, c'est possible. Physiquement, ils peuvent le faire. Ils ont l'argent.
Financièrement,
ils peuvent le faire. Mais il y a l'Europe qui va dire, mais attendez, c'est incroyable. Chaque année, ils mettent 200, 400, 300. Et ça va s'arrêter où? Donc, moi, je veux bien. La grande lessive, elle est bien. Intellectuellement, elle fait plaisir aux supporters, aux journalistes. Elle permet d'avoir du grain à moudre. Mais est-ce qu'elle est réelle? Je suis pas sûr.
Bon, on rappelle quand même que le Paris Saint-Germain est champion de France. Mais il est en crise. Il est clairement en crise. Il a perdu donc la finale de la Coupe de France ce week-end. Il avait été éliminé piteusement
C'est fou
bien avant en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions. Et là, il enchaîne les contre-performances en Ligue 1. Mais c'est quand même assez impressionnant ce que fait surtout le Paris Saint-Germain.
Je ne remets absolument pas en cause ce que vous dites, Hugo. Mais justement, le fait de pouvoir faire là dans la même phrase champion mais en crise.
Oui, bien sûr. C'est un nouveau concept.
C'est ahurissant. C'est un nouveau concept que je n'avais, je pense, jamais entendu. Ouais, même des équipes qui échouaient, elles échouent en Ligue des Champions parallèlement à un titre, etc. Ça peut arriver. C'est arrivé à peu près à tout le monde, à tous les clubs dans l'histoire, parce qu'il y a jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un seul vainqueur en Ligue des Champions. Donc, en quart de finale, globalement, il y en a 7 qui échouent chaque année. C'est assez déroutant et étonnant. Mais c'est comme
statistique, ça.
C'est statistique, exactement. Et du coup, on les estime en crise, mais, enfin, en crise, en agacement, de pas réussir, etc. Mais là, on parle de crise, quoi. C'est ahurissant pour
les équipes qui sont champions. Échoué. C'est que chaque année, ils échouent.
Oui,
après avoir gagné ou 4-0 à l'aller ou 2-0.
Je suis d'accord, mais il y a un mois, vous faites un dessin complètement différent de la saison.
Le 5 mars.
Et en fait, tout dépend.
Un petit peu avant, début février, le PSG n'avait perdu aucun match de championnat. Il a défait à Lyon.
Oui,
on se demandait même s'ils n'allaient pas finir champion
s'ils n'étaient pas armés.
Sans perdre un match.
S'ils n'étaient pas armés pour gagner la Ligue des Champions.
Et début mars, ils n'allaient pas battre Skobla.
Le 5 mars, tout va bien.
Et début mars.
Et le 6 mars.
Voilà. Et on était tous d'accord.
Le 6 mars, c'est le match.
Pour dire que cette équipe, oui, avait passé un cap et était même plus forte que les précédentes.
Il y a eu début mars et cette élimination en Ligue des Champions. Ensuite, il y a eu début avril avec ce titre non validé face à Strasbourg. Et derrière, ça s'est comme un château de cartes qui s'est écroulé.
Pour rebondir, ce qu'on disait à l'époque, il faut quand même s'en souvenir, ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'on avait la sensation que cette équipe, avec Tourelle, avait passé un cap au niveau de l'état d'esprit. On ne parle pas du niveau. Moi, j'ai mis des doutes dès le premier jour. Je veux dire, j'ai jamais vu une équipe commencer une saison avec 2 milieux de terrain inscrits, quoi. Enfin, 4, mais dont 2 remplaçants vraiment loin, comme Diarra et Nkunku. Et puis, il y avait 2 milieux de terrain dans l'effectif. Je n'ai jamais vu ça. Donc moi, j'ai mis des doutes d'entrée en disant, franchement, c'est pas possible. On peut pas y arriver.
Et un des deux, pardon, parenthèse,
Ils ont recruté un autre, ils ont reconverti des joueurs.
Vous appelez ça un joueur, vous?
Oui, non, mais...
Vous parlez de Paredes.
Ils ont reconverti Marquinhos, Draxler, etc. Donc Tourelle s'est tellement bien débrouillé qu'on a fini, effectivement, je suis complètement d'accord et j'assume, par dire, mais finalement ils peuvent y arriver, alors d'une manière un peu étrange, parce que pour moi c'est pas la meilleure équipe de Paris qui ait jamais eu, loin s'en faut, pour plein de raisons, mais il y avait un talent individuel et exacerbé qui pouvait atteindre des niveaux extraordinaires, que c'est le cas de Mbappé et Neymar notamment. Et puis, il y avait une espèce d'alchimie qui semblait en phase. Malheureusement, on fait 2 mois après un constat, mais à l'opposé total, en disant, mais il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus rien. Il y a des joueurs en vacances qui s'en foutent complètement. Si je regarde le match de Kimpembe hier, je ne peux pas penser autre chose que le mec, il s'en fout.
Il a de nouveau marqué un but contre son camp.
Il est en vacances, quoi. C'est pas possible.
Laissez-le battre, quoi.
Et je ne sais pas. Je dis ça en pure hypothèse et pas pour lui taper dessus. Je suppose que le gars, il a un problème. Il est pas là. En tout cas, je vois que sur le terrain, il est pas là.
Je
n'arrive pas à comprendre comment on a pu passer en 1 mois ou 2 mois de ce constat qu'il y avait un truc qui s'était passé dans le plan positif à là un truc proche de cataclysme. C'est plus une équipe, quoi.
Pour le factuel, il y a eu depuis mars avril beaucoup de blessures, donc des contre-performances. Il y a également des signes de nervosité hors terrain. On pense à Neymar qui se retrouve à pousser un supporter qui le provoque après la finale de la Coupe de France.
Angleterre, il serait interdit à vie ce supporter.
On pense à la nervosité de Kylian Mbappé expulsé en fin de partie en Coupe de France. On pense à Thomas Tuchel, il parle un peu de l'état d'esprit. Daniel Vess en a parlé, Neymar aussi a parlé d'un état d'esprit qui serait pas forcément notamment du côté des jeunes joueurs de l'effectif. Donc pour aller dans le sens de ce que dit Philippe, il y a une cassure très profonde qu'on n'avait pas forcément vu venir. Est-ce que vous pouvez nous la raconter?
Je vais vous la raconter. Juste que Philippe, il a dressé un truc un peu avec des raccourcis. Il y a eu la blessure de Neymar. Quand on le PSG, on se dit tiens, il a changé l'état d'esprit et qu'il peut gagner avec des champions. C'est à l'époque où Mbappé, Neymar sont ensemble très forts. Voilà, Marquinhos est au milieu de terrain très fort. Bon, après, si vous perdez un tous vos joueurs, forcément, je pense qu'avec Neymar, le PSG se serait peut-être qualifié contre Manchester United. Je sais pas, mais Bon, ce qui se passe aujourd'hui, Hugo, c'est qu'il y a des fissures dans le vestiaire. C'est qu'il y a des clans. C'est que, on va dire, le clan des Français, Areola, Kimpembe, Kurzawa, détestent Neymar, qui leur rend bien. Neymar déteste l'état d'esprit de ces joueurs-là. Ils trouvent qu'ils se la pètent champion du monde, notamment deux d'entre eux, qu'ils ont changé dans le vestiaire quand ils sont revenus de Russie, Kimpembe et Areola. On croirait pas ça d'eux. Bah, après, il y a aussi des vidéos juste après la Coupe du Monde où Kimpembe, il jette des billets de banque dans une boîte à Miami. C'est tellement rigolo, c'est tellement sympa.
Avec Benjamin Mendy.
Avec Benjamin Mendy, on est jeune, c'est cool. donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi
Neymar ne ferait pas ça.
Il y a aussi tous les petits, à part Colin Dagba, il y a aussi tous les petits issus du centre de formation, les Nkunku, les Diaby.
Mais on l'a pas vu venir ça. Pourquoi on l'a pas vu venir?
Si, moi je l'ai raconté assez longtemps, mais c'est une question d'être audible. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je disais, il y a des problèmes dans le vestiaire, les gens me disaient, bon, on s'en fout, et regardez les résultats. Aujourd'hui, quand vous perdez, là, maintenant, on m'écoute.
Et si on écoutait Marquinhos, qui a pris la parole également au micro de Canal+, après la défaite à Montpellier hier.
Avant, notre travail, c'est de plaisir aussi. Nous, on a commencé tout jeune. Moi, mon premier cadeau, c'était un ballon de foot. Et voilà, c'était mon plaisir. Et à chaque fois que je suis sur le terrain, j'ai trouvé ce plaisir-là. Je trouve que tous les autres aussi. Et il faut pas juste venir ici pour passer du temps, pour être un travail. Non, ça, c'est notre plaisir. Il faut donner tout l'amour qu'on a pour ce métier. Et voilà, c'est là où il faut montrer une bonne personnalité. Et dans le dur, il faut rester ensemble et ça va se sortir ensemble.
Elles sont vraiment surprenantes. Ces sorties médiatiques. Salim, il en vient à exhorter certains de ses coéquipiers à prendre du plaisir à jouer au football.
Enfin, si vous nous avez pas dit que c'était Marquinhos du Paris Saint-Germain, je vous aurais dit que c'était un jeune défenseur d'un club qui est 18e du championnat. Ce discours est incroyable. Effectivement, c'est l'état d'esprit que vous évoquez, le mental, puisque c'est le mot qui a souvent été utilisé par Thomas Tuchel ces dernières semaines, notamment après PSG Rennes, le mental de ces joueurs. Là, on se dit, pardon, mais j'entends ça, c'est des mentales de perdants qu'on entend. C'est un mental de perdant à travers ces propos. C'est ça qui est en fait inquiétant aujourd'hui.
Mais en même temps, c'est très courageux comme déclaration et de son point de vue, la phrase, je pense qu'il a oublié un négatif à un moment, donc ça elle prête à confusion.
Oui.
Mais ce qu'il veut dire, c'est voilà, il faut retrouver notre base de notre métier, c'est le plaisir, etc. Il faut le retrouver. Voilà ce qu'il dit. Et je trouve que c'est un message fort. C'est un message fort et qui on est dans la psychanalyse. L'interview de Pierrot Ménès hier avec Tourelle. Tourelle fait une espèce de psychanalyse en direct qui est complètement étonnante. Et d'ailleurs, moi je suis ému de la manière dont la cote de Tourelle s'est effondrée à l'intérieur du club. À l'extérieur, je pense qu'il est toujours un peu intact. À l'intérieur du club, c'est très étonnant.
Et y compris selon les journalistes, Dominique, y compris auprès de ses joueurs, y compris auprès de ses vestiaires.
Oui, on entend les noms de Conte, de Mourinho.
Mais quid de l'avenir, alors qu'il y a deux mois, c'était Tourelle va prolonger, d'ailleurs il a prolongé,
il reste. Hein,
et aujourd'hui, c'est il faut peut-être le virer.
Les dernières secondes pour Frédéric Citeau.
Non, on entendait Marquinhos, c'est l'un des rares, si ce n'est le seul, depuis quelques semaines, à venir affronter les journalistes après les défaites. Alors il était capitaine hier, mais on peut le croire sincère, hein, quand il dit moi j'aime le foot et être sur un terrain,
sur le plan médiatique, Marquinhos est l'un des rares, effectivement.
Et on pourrait peut-être rebâtir autour de Marquinhos.
Toujours prendre ses responsabilités. Merci à Philippe Doucet, Dominique Sévrac, Salim Baoungali et Frédéric Suteau, l'équipe de Radio Foot qui était présente dans notre studio cet après-midi. Merci également à Naïm Moniol et Marc Libra. Ça, c'était l'équipe du soir qui est revenue sur la victoire du Barça, la large victoire du Barça en demi-finale aller de la Ligue des Champions. 3-0 avec un doublé de Lionel Messi. Le troisième but, c'est un coup franc. Il est magistral. Le deuxième but personnel ce soir pour la Pulga. Merci enfin à David Finzel et Laurent Salarno, les tauliers de Radio Foot, toujours fidèles au poste, qui se sont couchés tard pour que votre émission préférée puisse revenir en direct sur les antennes de la Radio du Monde. Radio Foot, c'est évidemment à réécouter sur le site internet www.rfi.fr. Également, faites un petit tour sur notre page Facebook. Très bonne soirée sur RFI.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.